tout le monde, les amis. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique, en direct de Washington, D.C., la grande capitale de USA. Aujourd'hui, vendredi, un bon week-end déjà à vous, parce que c'est le week-end, on est tous d'accord. Mais de la bonne musique des îles ce soir, et une interview spéciale de la religieuse Susanna Konuma-Bevogi avec notre collègue Georges Léonard-Sagnan. Vous allez suivre cette interview inédite seulement dans RM Show. Attachez vos ceintures. Et voilà, ici c'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique en direct de Washington, D.C. Vous savez ce qu'on dit, non ? L'homme ne vit pas seulement de pain et d'eau fraîche. Même les Écritures disent, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais là, les Écritures ajoutent quand même la parole aussi. Écoutez, c'est conscient de cet adage que la religieuse guinéenne Susanna Konuma-Bevogi s'est lancée dans l'agriculture améliorée après 6 mois de formation au centre. Entre son rail à Porte Novo, au Bénin, elle rentre dans son pays natal pour lancer son projet agricole 100% bio. Les études de terrain l'ont permis de choisir la petite ville de Sérédou, dans la préfecture de Macinta, située dans le sud-est de la Guinée. C'est ainsi qu'est né en 2017, d'ailleurs, le centre agro-pastoral Sainte-Ursule de Sérédou, qui emploie de nos jours une vingtaine de personnes. Ses objectifs sont nombreux. En tout cas, on peut citer entre autres l'agriculture améliorée avec une production de fruits et légumes bio, la formation des jeunes, ce qui est quelque chose de très important que moi j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'on parle toujours des jeunes dans RM Show, et là je parle de filles et garçons, ces jeunes qui deviennent des entrepreneurs. Il y a aussi la production du biogaz, aussi des savons artisanaux et parfums aussi, du vin. Et j'en passe. Bref, en tout cas, le centre de Sérédou est une bonne opportunité pour la jeunesse africaine qui, au lieu de tenter désespérément d'aller chercher ailleurs, à l'aventure en Europe ou ici en Amazonie, en Amérique du Sud ou je ne sais pas moi, peut y passer pour trouver le chemin du bonheur. En tout cas, notre collègue Georges Léonard Sagnon l'a reçu pour nous ici sur VO Afrique. Nous aurons cette opportunité de suivre cette interview-là dans un instant. Mais d'abord, on va découler avec de la bonne musique des îles. Et à la fin de cette émission, bien sûr, il y aura aussi la conclusion à notre question de la semaine. Comment améliorer l'agriculture en Afrique? Et d'ailleurs, c'est pour ça que Georges a reçu notre invité de ce soir.
Saône-et-Loire.
God bless. Vous écoutez RM Show, une émission de l'Afrique en direct de Washington. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Ah oui, la semaine prochaine, Roger Muntou s'envole pour aller en vacances, à se reposer un peu. Oui, il faut travailler, mais il faut aussi se reposer. Et bien sûr, vous aurez des émissions préenregistrées, mais aussi des émissions déjà répétées pour vous, les interviews inédites qu'on a eues. Vous les aurez, bien sûr, de votre commandant de bord. Va aller se reposer. Ou bien, c'est important, non? Ah ouais, peut-être que j'irai à Abidjan, ou bien. Donc, je suis pas caro, je suis particulier. Je me prends caro, je me prends plaque du bleu.
Maintenant, je suis fiche à habitude. Tout ça n'a rien de particulier. Bye bye, je m'en ai avec toi. Bye bye, je m'en ai avec toi. Et la vie de ta life. T'as l'air d'un beau parleur. Je veux que l'on aille ensemble. Je pourrais parler.
Scorpio Afrique et vous répondez aux questions de Georges Théonas Sagno. Bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous?
Je vais bien. Bonsoir, Monsieur Sagno.
Quel plaisir, quel bonheur de vous recevoir. Je sais que vous êtes très, très occupé. Une sœur très, très occupée, n'est-ce pas?
Le plaisir est partagé. Ravi de faire votre connaissance.
Alors, nous avons regardé ce que vous faites, le centre agropastoral du Monziama, c'est à Sérédou, dans le sud-est de la Guinée. Alors, dites-nous comment cet amour a été cultivé en vous, une religieuse qui se retrouve paysanne, si je dirais ainsi.
Entrepreneur agricole.
Entrepreneur, voilà. Alors, comment le business a commencé?
Mais il faut dire que je suis une fille de paysan, je suis une fille de la terre, et donc j'aime ça. Et pendant ma formation au noviciat, nous avions un jardin, nous cultivions des légumes. Donc très tôt, je crois que j'ai eu cette envie-là. J'ai un amour particulier avec la terre. Et donc quand, après 49 ans que nos sœurs sont parties de la Guinée, quand on m'a dit de venir faire la prospection en Guinée, l'évêque m'a proposé 4 paroisses. Koloma, Sérédou, Dieké et Yomou. Et quand nous y sommes allés, nous avons sillonné ces 4 paroisses et j'ai fait un rapport et le conseil général a choisi la paroisse de Sérédou à cause de son accessibilité et puis à cause du nombre de jeunes qui s'y trouvent là. Et je suis venue faire un mois là pour voir un peu quelles sont les activités. Je me suis rendu compte que c'est une paroisse rurale, périurbaine. Et donc les gens sont plus engagés dans l'agriculture, dans l'élevage. Alors j'ai proposé aux sœurs, nous allons en Guinée, il faut que nous ayons quelque chose à faire. Et au lieu d'ouvrir des écoles, des choses comme ça, j'ai proposé que nous allions dans le sens des paysans, c'est-à-dire faire de l'agriculture, mais de l'agriculture améliorée. on ne va pas faire comme les paysans, mais on va faire améliorer pour aider les paysans à améliorer leur manière de faire. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Sangaï pour 6 mois, où j'ai fait une formation en entrepreneuriat agricole. Donc je me suis dit, je veux convertir.
Vous parlez
au centre Sangaï, au Bénin, à Porto-Novo-Fri. J'ai demandé, en fait, c'était en faveur d'une bourse qui formait des jeunes cadres de 25 à 35 ans. Et comme j'ai travaillé à Yamoussoukro avec les Dominicains, alors j'ai demandé au fondateur, le père Godfrey, qui lui a dit, écoute, nous venons d'arriver dans une paroisse rurale et vraiment, nous avons besoin de ça pour que nous puissions aller dans le sens des paysans, mais avec de nouvelles méthodes. Et donc il a accepté, je suis allée, j'ai fait la formation de 6 mois et je me suis donné vraiment pour cette formation-là. À tel point que j'ai été major de la promotion. Parce que là, c'était former des jeunes cadres 2 fois par an, tous les 6 mois. Et la formation avait déjà bien commencé, donc moi j'y suis allée seulement à la 4e promotion. J'étais la première Guinéenne là-bas. Et donc je me suis dit non, en tant que religieuse, en tant que venant d'un pays qui est tellement enclavé, les autres pays venaient, il y avait plein de Congolais, plein de Béninois, de Nigériens, mais la Guinée, on disait que c'était la première fois. Alors je me suis donné à fond et j'ai été major de la promotion. Et donc le fondateur m'a dit, tu peux recommander encore des personnes pour les 2 dernières promotions qui restent. C'est comme ça que j'ai coopté un jeune qui venait de l'université, qui a fait les sciences nutritionnelles, que j'ai envoyé. Lui, il a fait 6 mois. Après, j'ai négocié avec l'évêque. Un autre prêtre aussi est parti. Ça fait qu'il y a au moins 3 personnes de la Guinée qui ont été formées à ce programme de SLA, Sangaï Leadership Academy. C'est comme ça que, à mon retour en décembre 2017, nous avons commencé timidement à mettre en place ce centre. Donc, ça n'a pas commencé comme vous le voyez maintenant. Nous faisons les formations sur la catane, sur les troncs d'arbres, tout ça. Et c'est après que les sœurs, elles ont vu que nous y mettions du sérieux. Elles nous ont aidé à mettre en place toute cette structure de formation-là pour que nous puissions nous occuper, former des jeunes qui vont à l'immigration au détriment de leur vie. Nous avons dit que c'est une alternative. C'est comme ça que nous avons ouvert. Voilà, c'est une alternative pour que les jeunes n'aient pas situé en mer. En Guinée, on a tous, particulièrement au sud ici, qu'est-ce qu'on plante qui ne pousse pas? Tout pousse, tout pousse. Seulement, il faut arrêter avec le relativisme ou bien la paresse, parce que maintenant les gens sont devenus paresseux à cause des produits chimiques, justement. 1, 2, 3, même dans les champs de riz, on dit qu'il faut pulvériser l'herbicide. On ne gratte plus derrière les coups, il faut pulvériser. Mais tout ça, ça appauvrit la terre, mais les gens ne le savent pas tellement. Donc nous sommes là comme une sensibilisation pour dire aux gens, l'herbicide, les produits chimiques, bon, en tout cas ça tue la terre, ça tue les micro-organismes qui doivent aider, qui contribuent aussi à la fertilité de la terre. Alors quand on tue ces micro-organismes-là, mais il va de soi que 2-3 ans après, ce que tu vas planter, ça ne va pas pousser. Nous sommes là bientôt, ça fait 4 ans, nous sommes sur la même place, nous produisons des choses, des légumes, des choses, mais la terre ne s'approvisionne pas. C'est-à-dire que nous faisons des apports, nous faisons la rotation des cultures. En bref, nous avons adopté de nouvelles manières culturales qui aident à conserver la terre, mais aussi à conserver la santé des gens. Voilà un peu comment elle est.
Chez vous, donc, la culture est 100% bio, c'est ça?
Nous faisons du 100% bio. Nous faisons vraiment du 100% bio. Et même les produits que nous transformons, c'est-à-dire notre idée, c'est quoi? C'est que nous produisons nous-mêmes. Notre devise ici, c'est produisons, utilisons ce que nous avons pour avoir ce que nous voulons. Vous voyez? Donc, c'est la loi du Lavoisier. Rien ne se perd ici. Par exemple, quand on fait le désherbage, voilà, quand on désherbe les choses, on ne va plus jeter ça. Ça devient une base pour faire le compostage. Vous voyez, les choses du jardin qu'on devrait jeter, ça devient une base. Et ensuite, les déjections de porc, nous avons des porcs. Au lieu de que ces déjections-là salissent l'environnement, polluent l'environnement avec les mouches qui transmettent les maladies. Nous utilisons cette déjection-là pour, comme matière première au biogaz dans le digesteur qui nous donne le feu. Énergie donc du gaz méthane avec lequel nous préparons. Et le fluor qui sort de ce digesteur-là est un engrais vert qu'on utilise au jardin. Vous voyez, à chaque fois qu'on refuse l'engrais, même, nous avons des alternatives que nous proposons pour que cet engrais-là soit remplacé. Vous voyez, pour que nous puissions avoir la fertilité du sol et avoir ce que nous voulons.
En tout cas, c'est fascinant ce que vous faites. Et au jour d'aujourd'hui, combien de jeunes avez-vous formés? Combien de jeunes employez-vous? Et qu'est-ce que vous cultivez dans ce centre-là?
En termes d'employabilité, nous avons une vingtaine de jeunes qui travaillent avec nous. Il y a des jeunes de façon occasionnelle qui viennent, mais de façon permanente, nous avons une vingtaine de jeunes qui ont fait soit qui ont fini l'université et qui sont venus travailler avec nous, ou bien qui ont fait des écoles professionnelles, ou bien que nous avons pris comme ça sur le tas, que nous avons formé, ou bien qui demandaient des services qu'on a formés sur le tas et qui travaillent avec nous. Et nous avons une base de données pour tous ceux qui viennent dans le centre, qui font 6 mois ou moins de 6 mois. Nous en avons déjà 124 jeunes qui sont sortis de ce centre. Oui. Et Plan, nous travaillons avec Plan International qui nous envoie des jeunes filles vulnérables que nous formons. Après 6 mois, Plan les appuie financièrement et elles-mêmes, elles entreprennent. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai parlé avec quelques-unes. Il y a une qui a fait comme spécialisation le savon, la saponification. Elle me dit, ma soeur, quand je vais au marché à Kissidou, je suis au marché comme ça, quand j'y vais, quand je n'ai pas fait de vente, vraiment, j'ai 80 000 francs. Vous voyez, une fille qui était vulnérable et qui sort aujourd'hui, qui est contente, qui dit que son savon est très apprécié, elle fait 80 000 francs. Imaginez une fille qui fait 80 000 francs seulement, elle dit quand elle n'a rien vendu, c'est 80 000 francs. Alors, à supposer qu'elle vende 80 000 francs tous les 6 jours par semaine, ça fait de l'argent. Ça fait de l'argent. Donc, c'est un peu ça que nous faisons. Nous formons des jeunes pour qu'à la sortie de ce centre, ils puissent se prendre en charge. C'est ce qui fait que nous sommes très rigoureux. Alors, les gens ont peur de nous dire que les soeurs, là, leur travail, c'est trop dur. Il y a toujours du travail là-bas. Mais quand on ne travaille pas, Saint-Paul dit, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus.
Ce qui est bien dit, ce qui est bien dit. Et justement, comment arrivez-vous à concilier vos activités de sœurs, de religieux et des activités agricoles ou agro-pastorales?
C'est une question d'organisation. Parce que les gens pensaient qu'une sœur, c'est manger, c'est prier et c'est dormir. J'ai dit non. La France, comment est-ce qu'elle a entamé son développement? C'est grâce aux bénédictins. C'est grâce aux bénédictins. C'est eux qui ont dit il faut travailler 8 heures de temps, dormir 8 heures de temps, prier 8 heures de temps. Donc c'est une question d'organisation. Nous faisons la catéchèse, nous sommes en plein dans la pastorale aussi. Et je me dis qu'il faut donner Dieu à des gens qui n'ont pas faim. Parce que si tu vas donner Dieu à quelqu'un qui a faim, qui n'arrive même pas à manger, quelle oreille cette personne a pour t'écouter? Donne-lui à manger, après tu peux parler avec lui, ou bien apprends-lui à avoir son manger, après vous pouvez parler Dieu. Pour nous, ici, en tout cas, nous prions, nous avons une chapelle, nous allons à l'église, nous sommes dans la chorale, nous faisons la catéchèse, nous allons dans les villages avec les prêtres, mais en même temps nous formons. Parce que nous faisons le développement, parce que je pense que foi et développement ne se combattent pas. Et développement ne peut pas se combattre. Même Jésus, là, travaille, on dit Jésus était charpentier. Alors Dieu n'a pas dit de rester là, prier, c'est même plus de mendier. Nous ne faisons pas partie de cette catégorie de sœurs-là. Nous voulons travailler et puis vivre de ce que nous produisons. Vous voyez, quand les gens viennent, ils se disent ah, mais ils ont l'argent. Mais ce n'est pas nous qui avons l'argent. C'est-à-dire que c'est nos sœurs qui ont travaillé en Europe. Et maintenant, comme elles sont vieilles, elles nous ont donné une part pour dire c'est votre héritage. Nous aurions pu thésauriser ça dans une banque vous dites, bon, on va mieux vivre comme des pachas, on n'est pas nombreuses. Mais non, on a mis ça au service de la population. C'est comme un investissement. Nous mettons ça au service de la population. Nous faisons beaucoup de social. Et ce que nous demandons simplement, peut-être aux institutions ou bien à l'État, c'est de nous accompagner. Parce que normalement, je pense que ça, c'est le rôle des grandes institutions ou bien de l'État de former des jeunes qui se prennent en charge. Nous, nous l'avons, grâce à nos sœurs, nous avons déjà mis cette structure en place. C'est vraiment de les appeler à nous accompagner, à subventionner, par exemple, la formation des jeunes. Nous avons le personnel. Nous sommes capables de former des jeunes, on a déjà fait l'expérience et les gens sont très contents. Vraiment, nous essayons de contribuer tant bien que mal avec les moyens que nous avons, mais nous pensons que si d'autres personnes nous appuient, on peut faire encore mieux que ça. Parce que c'est vraiment désolant d'entendre des jeunes guinéens, un pays qui est vachement riche, un pays que Dieu a béni avec de l'eau, d'entendre des jeunes dire « Ah, ça va la Guinéenne, ils ont fini leurs études et ils sont là. » Non, il n'y a pas de travail, non, il n'y a pas de travail. Et regardez un peu les résultats des examens, c'est déplorable. C'est-à-dire que les gens sont habitués à la facilité. Moi, je pense que c'est une lutte qu'il faut mener ici en Guinée, la facilité, il faut lutter contre ça. On a écrit ici les dortoirs là, la pauvreté se fabrique au lit. Tu ne peux pas dormir comme si tu étais en compétition avec les morts et espérer être riche dans le pays, dans le monde des vivants. C'est tellement vrai, c'est un proverbe de Sir Robert Mugabe. C'est tellement vrai ça. On ne peut pas rester là sur ses oreillers et dire qu'on va s'enrichir. Ailleurs, les jeunes bossent beaucoup. Au Bénin, par exemple, tous les jeunes là sont entrepreneurs agricoles. Mais chez nous, on est là. Les jeunes, très tôt, à 6 heures déjà, on les voit en train de boire dans les choses. Mais, vous voyez, ça, nous, nous disons non. C'est nous-mêmes qui fabriquons notre propre pauvreté. Et nous voulons lutter contre ça. C'est un défi que nous voulons relever ici. C'est pourquoi peut-être les jeunes, et les gens disent que, ah, les jeunes, là, sont durs. Bon, on est durs, mais quand même, on est content de travailler ce que nous faisons. Et nous sommes heureux avec ça.
Les dernières informations culturelles avec votre commandant de bord, Roger Moutou, seulement ici, sur RM Show, sur VOA.
A mi lado sin saber por qué es demasiado tarde para comprender mi cabeza da vuelta persiguiéndote. Soy un adicto y lo sabes, es mi adicción porque como ella no hay nadie, siempre mejor. Soy un adicto y lo sabes, es mi adicción porque como ella no hay nadie, siempre mejor. Me da pena de comer ya está lo que no se come. Mía se supone, contigo mi cabeza compone, y yo te dedique mis canciones. Mami, yo voy a hacerte lo que yo quiero, yo solo voy a darte duro y sin miedo, y nos pegamos juntos bien hasta el cielo, porque llego primero, siempre primero. Mami, yo voy a hacerte lo que yo quiero, yo solo voy a darte duro y sin miedo, y nos pegamos juntos bien hasta el cielo, porque llego primero, siempre primero. Me asomo en la ventana, eres la chica de ayer. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Es demasiado tarde para comprender. Mi cabeza da vuelta persiguiéndote. Soy un adicto y lo sabes. Es mi adicción porque como ella no hay nadie. Siempre mejor. Soy un adicto y lo sabes. Es mi adicción porque como ella no hay nadie. Siempre mejor. Oh, no, no. Para ti, oh, 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 oh.
Mr. Abouli, Daiki, Buena Musica, seulement ici sur Vélo Afrique, Yaman. Ici c'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique en direct de Washington DC. Je vous rappelle que déjà à partir de la semaine prochaine, votre commandant de bord sera en vacances. Vous aurez des émissions répétées, des émissions, des interviews inédites qu'on a fait avec beaucoup d'artistes, beaucoup de personnalités, mais aussi vous aurez des émissions préenregistrées dans RM Show. Ouais, exactement. Ici c'est votre commandant de bord. Ouais, souhaitez-moi quand même, hein, Roger, passez des bonnes vacances, ou bien. Je vous aime en tout cas, je vous adore, et je vous reviens bientôt. Inch'Allah, si Dieu le veut, on est ensemble. Ramchou, une émission de Afrique en direct de Washington DC. Que de la bonne musique ce soir. Merci beaucoup à la religieuse Suzanne Kolumu Bevogui qui est en entretien avec Jean-Jean Léonard Fagnon. On va continuer la suite en deuxième partie dans un instant. N'allez nulle part ailleurs. Ramchou continue. C'est de la bonne musique et je salue nos amis qui sont en train de nous capter ce soir à Alzéré Corée et tous ceux-là qui sont en train de nous capter à Conagri. On est ensemble, les amis. C'est Ramchou. N'allez nulle part ailleurs. Ramchou, c'est comme ça qu'on fait ici la musique. Je salue nos amis qui sont en train de nous capter ce soir à Kinshasa, Keitan, Mokili Ayawi. Dieu bless. Peace out. Ladies and gentlemen, this is Bolivia.
RM Show et nous lui avons le visa et nous avons le visa. Vous avez
branché sur la voie de la mer dans le pays d'Haïti. Pas raté, bon, ça, chaque après-midi. Avec Roger Montou, RM Show. Un bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté. Avec bon musique et tout standard. Roger Montou, RM Show. Sur la voie de la mer.
Let's go. Voilà que ça tombe bien avec notre sujet de la semaine. On finit bien sûr en beauté avec cette superbe interview de Georges Léonard Sagnon, notre collègue de VO Afrique, avec la religieuse Suzanne Koluma Bevogui, qui nous parle d'ailleurs aussi de cette importance de l'agriculture. Hein, et on parle bio ici. Je vous avais dit que l'agriculture c'est très important. Alors comment améliorer cette agriculture en Afrique? Voilà des hommes et des filles, des fils et des filles de ce pays qui font la différence. La musique.
Se apagan las luces, nos vamos mirando y comenzamos con los cruces. Y vamos entrando en calor, nos comimos boca a boca en el sillón. Yo quiero esto, y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos. Yo lo anexo y de esto. Yo quiero esto, y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos. Yo lo anexo. Nos fuimos pegando toda la ropa transpirada, porque a ella le gusta que la tenga acorralada. Cosas al oído me decía y delirada. Porque si tú no la entiendes, buscar otra cita. Yo le digo, ven, vamos pa' casa, mamacita. Y si tú quieres, nos pegamos un par de cervecitas. Yo te gusta de todo lo que tú necesitas.
Suelte la pelota, está bonita, está roje mucho aquí. Ici c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Oui, je parle aussi espagnol, qu'est-ce que vous pensez de quoi? Je parle pas espagnol, c'est quoi votre problème? Écoutez les amis, vous écoutez la prochaine émission de l'Afrique en direct de Washington D.C. Je vous rappelle seulement que ça c'est ma dernière émission avant les vacances qui commencent déjà la semaine prochaine. On sera ensemble les amis avec des émissions pré-enregistrées pour vous, parce qu'on ne vous laisse pas. Malgré qu'on n'est pas là, on vous fait bouger. On vous fait danser. Ah oui, reposez-vous un peu parce que vous avez tellement contribué à nos sujets socioculturels. Je vous laisse aussi vous reposer un peu, déguster de la musique, de la bonne musique, ou bien. Vamos al cuarto y nos comemos a besos. Yo lo anexo, pide eso. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos. Yo lo anexo, pide eso. Quiero ir. Te canto para ti. Thank you.
yo no te voy a mentir, perfecto no seré jamás, te he demostrado yo a ti, mis ojos solo ven por ti, yeah, yeah, mis ojos solo ven por ti, yeah, yeah. Yo quiero ser aquel que a tu lado está, alumbrándote la oscuridad. Toda la gente cuando tú ya lo sientas también, y queda callado te voy a advertir, por darte sentimiento por dentro, amor secreto yo te prometo. Oye mujer, sabes que tú eres la que...
Très bien, vous avez beaucoup de défis, vous l'avez dit, les défis sont nombreux. Et récemment, vous avez organisé au centre agro-pastoral du Mont Diamant, à Tirelou, une foire. Et on a vu la présence, on l'a noté, la présence des autorités préfectorales. Est-ce que c'est un signe d'ouverture vers ces autorités-là? En quelque sorte, est-ce que ces autorités vous ont apporté de l'appui, vous pensez?
Nous avons toujours été ouvertes aux autorités. Nous allons vers elles et elles sont très ouvertes aussi à nous. Par exemple, avec le maire, le sous-préfet d'ici, dès qu'on a besoin de quelque chose, on va là-bas, il nous appuie, soutien moral. Ça ne nous manque pas. Même le préfet, nous sommes allés le rencontrer, il nous a accueillis vraiment bien. Il a promis d'être là et il était là. Et même la ministre de l'Environnement qui nous aime bien, qui apprécie ce que nous faisons, elle a même envoyé deux cadres pour nous soutenir. Et au passage, je lui dis merci. Voilà des personnes qui nous soutiennent. Quand on sait que les autorités sont derrière vous, qui vous appuient moralement, qui vous encouragent, ça nous aide, ça nous donne des ailes à aller de l'avant. Mais les gens, les autorités peuvent encore faire mieux. C'est-à-dire, on ne demande pas tellement l'argent pour nous-mêmes, mais subventionner la formation des jeunes. Parce que si nous nous faisons tout gratuitement, mais il va de soi que d'ici 5 ans, le centre va mourir. Or, le centre doit vivre pour que ça puisse former encore d'autres personnes. Mais nous faisons déjà beaucoup de social. Si on continue, parce qu'on voit que tout le monde ne peut pas payer. Mais en même temps, la structure est telle que c'est un investissement. Et il faut faire sortir cet investissement-là. C'est là où il y a le gros problème. Tout le monde est d'accord de dire que ah, le centre l'a fait de bonnes choses. Ah, même tout est bien, c'est bien. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui s'est tapé la poitrine pour dire je vais soutenir le centre-là à telle hauteur ou bien je vais subventionner la formation de 10 jeunes pour que ces personnes viennent. Mais c'est petit à petit comme ça. Quand on forme des jeunes, après ils s'en vont faire ailleurs. Mais c'est comme ça qu'on peut éloigner la pauvreté, à mon avis. Subventionner, par exemple, la formation des jeunes, ou bien nous avons mis en place un système de biogaz mobile qu'on peut donner à des foyers, à des ménages qui font la pression sur le massif du Diamant, qui est une aire protégée, qui est une zone, qui est une forêt protégée. Alors, chaque fois que c'est les moments préparent avec ces foyers qui produisent de l'énergie, du gaz méthane, qui travaillent avec ça pendant 2 mois, elles ne vont plus aller couper du bois. Mais il faut quelqu'un pour financer, pour nous aider, par exemple, à dire au foyer, bon, je peux subventionner ça là pour que des ménages puissent utiliser ça. On peut protéger, nous, c'est notre manière de protéger la forêt, mais on ne peut pas faire pour tout le monde. Ouais, c'est des idées que nous lançons et on espère que le jour, quelqu'un va vouloir aider peut-être les populations riveraines, ou bien les gens veulent protéger la forêt, ils pourront dire, ah, je veux travailler avec les autres, je veux subventionner ça, pour par exemple dans ce village, pour que 20 personnes aient ça, pour ne pas agir sur la forêt. Parce que, je ne sais pas, vous êtes guinéens vous aussi, avant les forêts n'étaient pas comme ça. La forêt d'ici était très dense. Mais la pression fait que la population augmente, mais les terres n'augmentent pas. Donc il y a une pression qui ne dit pas son nom. Il y a des gens qui sont dans la forêt classée, mais tu ne peux pas les enlever de là. Il faut trouver des alternatives.
Ouais. Tout à fait.
Donc nous sommes vraiment là comme un signe de sensibilisation pour les riverains pour qu'ils puissent accepter d'adopter de nouvelles méthodes culturales qui respectent l'environnement, mais aussi pour qu'on puisse protéger cette forêt classée de diamants qui est derrière nous, qui est un patrimoine mondial.
Tout à fait. La forêt classée de diamants est patrimoine de l'UNESCO, ce qui est une très bonne chose. Et vous l'avez dit, il faut protéger ce patrimoine-là, car les forêts sont en voie de disparition. Cela dit, qui consomme vos produits? Autrement dit, est-ce que les produits que vous cultivez sont exportés dans la sous-région, vers le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et pourquoi pas le Mali ou le Sénégal?
Bon, c'est des particuliers, hein. C'est des particuliers. En Côte d'Ivoire, par exemple, quelques personnes en prennent. Mais bon, à cause des frontières aussi, on ne peut pas parler d'exportation en ce moment. C'est d'abord la consommation locale. Là, au village ici, mais si vous irez courir Massanta, les gens nous appellent de plus en plus. Même de Conakry, les gens nous appellent. Il y a un centre d'accueil, l'archevêché, on avait fait un petit dépôt de savon là-bas. Et le monsieur me disait, c'est ce savon-là, c'est vos savons maintenant qu'on utilise dans les douches. Et les gens ont apprécié beaucoup. Vous voyez? Donc, si la personne me disait même qu'il y a des étrangers qui viennent d'ailleurs, les expatriés là, quand ils mettent nos savons dans les douches là, les gens apprécient beaucoup. Alors, il me disait, il faut nous envoyer des échantillons encore, 50 types par chaque savon. Nous avons jusqu'à 12 variétés de savon. Nous créons tout le temps, vous voyez.
Ce sont des produits industriels, ce savon-là, ou ces savons sont fabriqués
C'est de façon artisanale. On n'a pas de marché, c'est de façon artisanale. C'est de façon, on a des seaux, on a des bâtons, on fait le savon avec ça, on a des moules en bois, voilà.
C'est du savon parfumé ou du savon naturel?
On fait du savon naturel, on parfume aussi. On a du savon de moringa, du savon de curcuma, du savon de thomas, savon d'avocat, concombre, ainsi de suite. Ouais, on fait vraiment des choses de chez nous. Par exemple, quand c'est le temps de concombre, on en a plein dans le marché. Alors, au lieu de jeter, quand on produit, on ne sait pas comment vendre, nous disons aux jeunes, mais quand il y en a beaucoup, profitez pour faire des solutions, par exemple, de concombre ou de tomate. Et là, vous pouvez faire du savon de concombre pendant tout ce temps. Le concombre a des vertus pour la peau, vous voyez. Et de même pour l'avocat, quand c'est le temps de l'avocat, on se dit, mais dis donc, il y en a plein, on jette même. Ouais, donc, on profite pour faire les solutions d'avocat. C'est pourquoi je disais dans notre devise là, on dit utilisons ce que nous avons. C'est des choses que nous avons sur le terrain. On n'a pas besoin d'aller à Jakarta pour prendre des choses pour venir faire notre savon. Non, ce que nous avons ici sur le terrain.
C'est un peu la loi de Lavoisier.
Une réaction
chimique bien déterminée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc dans votre centre agropatron, tout se transforme, c'est ça?
Voilà. Et même, c'est ce que nous voulons dire aussi aux paysans, par exemple, c'est essayer un peu de changer, de diversifier l'alimentation. Parce que ici, la forêt, c'est du riz. Or, pour cultiver le riz, il faut tout défricher. Il faut abattre les arbres, il faut brûler pour que le riz donne bien. Mais comme avant, il n'y avait pas beaucoup de personnes, alors quelqu'un pouvait cultiver ici 7 ans et puis aller faire des achats, 7 ans revenir après. Maintenant, on n'a plus ce temps-là. Quelqu'un qui a fait 3, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, et chacun a sa portion de terre. Mais tu ne peux plus attendre 7 ans pour revenir au même endroit. C'est-à-dire qu'il faut accepter de changer, de diversifier l'alimentation. Au lieu que ça soit seulement du riz, on peut manger aussi du soja. Et il y a de la protéine dedans. On peut manger des haricots, on peut manger du manioc. On fait par exemple du gari. On plante le manioc. Quand le manioc donne, on n'a pas de problème pour dire, ils n'ont pas payé. Soit on donne au porc, on fait du gari, on fait de la tieke, on fait du vin, le manioc. Vous voyez, tout ça, c'est des possibilités. Pour ne pas qu'on soit là à dire, ils n'ont pas payé ma chose, donc je ne peux rien. Non. Transforme ce que tu cultives. Là, ça te permet de garder plus longtemps. par exemple les vins, vins d'orange. Quand c'est le moment des oranges, nous faisons des vins. On presse les vins, c'est pas avec des machines, c'est nous-mêmes qui les pressons. On met dans des bidons, on fait fermenter dans des bidons de chez nous. Et après on met dans les, on fermente et puis on met dans les bidons. Et les gens aiment bien nos vins, vins de petit colard, vins d'orange, vins de banane, vins de manioc, vins de pistache. C'est des choses que nous avons ici.
Ah oui, on aimerait goûter hein, ces vins-là, surtout à Washington quand il fait froid en hiver. Ah, alors là, à chanter, à la santé, comme on dit, un de ces jours, j'espère oui. Que on pourra siroter un peu, déguster, voilà, siroter un peu ces vins-là. Merci, ma soeur. Alors, une dernière question, on passe au défi mondial de l'alimentation lié à la crise en Ukraine. Le blé se fait rare. Est-ce que vous vous sentez appelé par cette crise-là? Votre centre se sent appelé pour, n'est-ce pas, répondre à la crise qui frappe aujourd'hui le monde entier? Parce que l'Afrique a des terres arables, mais l'Afrique pleure aujourd'hui parce que le blé ukrainien, le blé russe, les engrais russes ne sont plus exportés. Comment votre centre compte répondre justement à cette crise liée à l'alimentation ou au manque du blé?
J'ai vu dernièrement sur YouTube, au Burkina, un pâtissier qui a mis sur le marché du pain à base de sorgho, du pain à base de maïs, du pain à base de blé. Pourquoi pas chez nous ici? Nous avons la possibilité de faire de la farine panifiée, c'est-à-dire avec du manioc. On peut faire du pain de manioc, pourquoi pas? Quelqu'un est venu ici un jour et me dit, mais vous ne voulez rien acheter? Si on a tout sur place, nous avons le système intégré. On peut faire de la farine de banane. On n'a pas, c'est vrai qu'il y a des, on ne peut pas vivre en autarcie, je suis d'accord, mais je pense que si on met l'accent aussi, on cultive bien les choses de chez nous là, on peut bien se nourrir avec des choses d'ici, sans même avoir besoin d'importer les choses à chaque fois. Et en cela, j'apprécie la politique gouvernementale de transition là. Je vois la télé, hein, on dit vraiment il faut mettre l'accent sur l'agriculture, il faut aider les paysans à cultiver, ils font des immensités de champs de riz. Mais ça va nous aider à ne plus importer du riz. Au moins les gens sauront quel riz ils mangent, ça a été cultivé où? C'est chez nous ici. Alors notre centre, on n'a pas grand moyen pour dire que on va nourrir même Sérédou, non, on ne peut pas. Mais déjà, le fait que nous nous prenons en charge sur le plan alimentaire ici chez nous, c'est déjà bien. Et notre rêve, c'est aussi de contaminer d'autres personnes qui puissent faire, même si c'est à petite échelle, chez elles, pour que petit à petit la faim puisse s'éloigner. Mais c'est sûr que si on a des moyens, ou bien si ces gens de centre secret dans d'autres villes ou bien dans d'autres régions, ça peut aider non seulement à protéger nos terres contre les produits chimiques, parce que si nous cultivons et puis que nous ne détruisons pas la terre, on peut produire encore beaucoup plus. Ouais, nous sommes sur 3 hectares et demi. Mais chaque année, on cultive sur les mêmes places. On fait des apports en compost, en choses, mais on est toujours sur la même place. On n'est pas obligé de quitter le centre pour aller cultiver ailleurs. Mais si chacun fait comme ça chez lui, il peut avoir à manger. On est même arrivé à cultiver sur le béton. On a recyclé des sacs avec du compost dedans. On a mis des tomates tout au long des terrasses. Mais ça a donné de belles tomates. Ça a donné des choux. Tout ça, c'est des possibilités. Nous disons, je n'ai pas besoin de vous tuer quand vous n'avez pas de terrain, tout ça là. Mais chez toi, tu peux faire du piment. Même sur du carreau, tu mets les sacs recyclés avec ton compost. Tu mets les choses, ça pousse pareil. Vous voyez, des cultures hors sol, ça pousse. Donc, si on arrive déjà à se nourrir, je pense que c'est déjà une bonne chose. C'est une bonne chose. Et après, on n'a pas la prétention. On rêve et on a de la vision, mais je ne pense pas qu'on a la prétention de nourrir maintenant toute la Guinée jusqu'à aller en Ukraine là-bas. Peut-être que Dieu va nous donner ce moyen, mais je dis que nous faisons de façon petitement. pour que nous puissions éloigner la faim de chez nous.
On dit bien, à cœur vaillant, rien d'impossible. Hein?
Rien d'impossible. Âme vaillante.
Voilà, très bien. Très bien. Alors, cela dit, hein, nous sommes à la fin de cet entretien. J'ai du mal à vous lâcher parce que tout ce que vous dites, c'est fascinant. Et quels sont donc, si vous avez un dernier mot, un dernier message, comment un client ou des clients pourraient vous retrouver sur des plateformes, hein, sur les réseaux sociaux? Vous avez le micro, l'antenne, pour vous adresser à tous ceux qui désirent visiter le centre agropastoral de Ziama en Guinée.
Nous avons une page YouTube, Centre Saint-Cécile. Nous avons une page YouTube, nous avons plus de 20 vidéos qui sont là, vous pouvez, les gens peuvent les visionner. Et nous avons aussi un site internet. Bon, c'est vrai que ce n'est pas très très alimenté, mais on va essayer quand même de meubler. Nous avons aussi deux pages Facebook. Voilà, nous avons quand même nous sommes sur les réseaux sociaux. Il peut prendre contact avec nous. On a des numéros aussi qui sont sur nos produits. Je peux donner le numéro ici, 623-00224-623-21-84-99. Pour ceux qui veulent nous joindre, c'est aussi un numéro WhatsApp. Voilà. En tout cas, nous sommes sur les réseaux. Nous essayons d'être à la mode comme les autres. C'est pas parce qu'on est seul qu'on doit vivre quand même, hein.
Tout à fait, ce qui est bien dit. En tout cas, sœur Suzanne de Kourouma Biabougui, je vous remercie. C'était un plaisir de vous recevoir sur Bio Afrique.
Merci beaucoup. Merci, M. Sagnol.
Et nos encouragements à vous et à toute l'équipe. Hein.
Merci beaucoup, M. Sagnol. Le plaisir est partagé.
Les dernières informations culturelles avec votre commandant de bord, Roger Montou, seulement ici, sur RMJO, sur VOA.
Qu'on fait pendant les vacances, et c'est ce que moi je vais faire, hein. Je vais faire mes délires pendant les vacances. Suivez-moi seulement sur ma page Facebook, vous allez voir mes délires. Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ah ouais, les écrits disent, Ecclésiaste, il y a un temps pour tout dans la vie, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Et moi je veux me reposer un peu, exactement. Et vous aussi je vous laisse vous reposer parce que vous avez beaucoup travaillé dans RM Show, vous avez beaucoup contribué à nos sujets socio-culturels, exactement. Donc merci beaucoup, je vois déjà Mireille Pézi qui nous écrit à partir de Brazzaville. Elle dit Roger, passe les bonnes vacances et reviens-nous en bonne santé. Merci Mireille. Je vois Pedro Como qui nous écrit de Lunda Norte sur mon numéro WhatsApp au plus 1-703-350-3731. Il dit Roger, ah oui, buenas vacaciones, gracias. Merci beaucoup à vous. Ouais, qui encore nous écrit là? Attendez. Ah ouais, là je vois Myriam Soumbouro qui nous écrit depuis Bamako, Mali. Il dit Roger, Korani, avec Chorodi, tu vas nous manquer, mais reviens-nous en bonne santé et repose-toi bien. Merci beaucoup. Aïe aïe aïe. Merci d'être resté à l'écoute de cette émission. Merci à Georges Léonard Zagnon et merci à la sœur Suzanne pour cette superbe interview, pour réveiller toujours les consciences et des jeunes, hein, des nos jeunes en Afrique. Ah oui, c'est très important. Merci, on est ensemble. Et vous le savez, hein, au cœur déjà de cette affaire de l'agriculture, il y a beaucoup, beaucoup d'informations à savoir. Malgré l'urbanisation rapide, les activités liées à l'agriculture constituent encore le moyen de subsistance d'environ 60% de la population active du continent africain, représentant 17% de la totalité du produit intérieur brut et 40% des recettes et des devises étrangères. Alors la question de cette semaine, c'était comment faire pour améliorer l'agriculture en Afrique. Merci beaucoup à vous qui avez répondu. Merci à Ouattara, Patouma, Achille, à Abidjan, Côte d'Ivoire, qui nous dit: Roger, il faut que nos agriculteurs accordent une priorité à toutes les actions qui pourraient contribuer significativement au développement de l'industrie semencière et à la résilience face au changement climatique. Merci aussi à Sena Dodzi qui nous dit: pour améliorer l'agriculture en Afrique, il faut que le gouvernement investisse dans ce secteur et que nous puissions dépendre de nous-mêmes. Oui, exactement. Nous avons beaucoup de terres arables. Il faut aussi aider les jeunes cultivateurs sur le plan financier. Ah oui, ça c'est très important parce que ça finance, comment ils vont faire. Ou bien, merci infiniment aussi à Marie Kaba qui nous dit: investir dans les infrastructures rurales, notamment des routes, chemins de fer, des sites de stockage et de traitement, des marchés, des systèmes de communication et des réseaux d'approvisionnement fiables pour les agriculteurs. Merci à elle. Merci aussi, bien sûr, à Marie Somboro à Bamako, Mali, qui nous dit: pour moi, Roger, je pense qu'il faut limiter le gaspillage alimentaire, adopter des choix alimentaires moins impactants pour la planète, favoriser une agriculture vivrière locale et créer des modes de production alternatifs. Merci à vous, vous étiez nombreux. C'était votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. La nuit porte conseil, comme on aime bien le dire. Dormez bien, faites bien dodo. On se retrouve dans 3 semaines parce que moi je vais en vacances. Ah oui, vous avez entendu. God bless. Peace Africa.
C'était RL Show, une émission de VOA.